Sophie Ier par Marie-Dominique Philippe, 2 octobre 1997 à Saint-Jodat.
Une question. Vous avez dit hier que le devenir est au-delà du principe. Oui, que le devenir est au-delà du principe de non-contradiction. Je n'ai pas dit au-delà parce que c'est en dessous.
Ceci est...
et ceci n'est pas tout ce que vous dites. Peut-être supprimé. Alors on a le discours de l'être un jour, le discours du non-être le lendemain. Tout ce que je vous ai dit hier, aujourd'hui je dis non. C'est pas ça. Alors on ne peut plus. Tout est relatif. Il n'y a plus rien. Est-ce que l'être est du fait qu'il est quelque chose absolu, il n'est pas en même temps non-être, tandis que le devenir en tant qu'il existe, porte en lui être et non-être. Il est. Distingue l'être et le deux et l'exister. suppose le devenir. Je suis en dehors du devenir. Je suis. Il y a en moi quelque chose qui est au-delà du devenir. Je suis. Et je suis, j'existe. Dans le langage courant. Et là, le langage métaphysique qui est au-delà de l'étymologie des mots qui regarde leur signification courante, leur signification habituelle. Quand je dis je suis, j'existe, je ne fais pas beaucoup de distinctions. Vous pouvez dire je suis. là qu'on a donné le nom métaphysique. Les bibliothécaires qui ont découvert les livres d'Aristote qui étaient perdus ont vu la physique, tous les livres sur la physique. Sur donc la nature, sur le devenir, sur le mouvement. Puis après, un livre particulier qui traite de l'être en tant qu'être, le Toaneon. Aristote n'a jamais dit métaphysique, il a dit philosophie première. Donc aujourd'hui, reprenons l'expression d'Aristote. C'est mieux. Ou employons les deux, si vous voulez. Tout dépend avec qui on parle. Si vous parlez avec ceux qui sont très rigoristes au point de vue du langage, prenez le terme d'Aristote, philosophie première. Husserl parle de philosophie première. Le terme est admis. Tandis que métaphysique, on a insisté à l'enterrement de la métaphysique avec Heidegger. Parce que pour lui, la métaphysique, ce n'est pas le point de vue de l'étude de l'être en tant qu'être. La métaphysique a été assumée par les théologiens et donc a perdu sa véritable signification. Et la métaphysique, elle est dans le temps. Dans le temps, c'est très bien, elle a existé. Elle a existé avec la scolastique. Mais maintenant, on doit dépasser la métaphysique et on doit découvrir l'ontologie fondamentale. Et en réalité, l'ontologie fondamentale, c'est ce que nous appelons la philosophie première et la métaphysique. Pour Heidegger, l'ontologie fondamentale, c'est vraiment la philosophie première. Première dans le sens de « au-delà de quoi je ne peux pas aller ». C'est ça ce qui est premier. Non. Tout ce qui est second est relatif au premier. Ce qui est premier est relatif à rien. C'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Mon intelligence, quand elle touche ce qui est en tant qu'être, ne peut pas aller au-delà. Elle est en quelque sorte coincée. Elle touche un terme. Ceci est. Point final. À partir de là, ce qui est en tant qu'être. Et tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est? Quelle est la signification de l'être? Ce sera alors tout ce que nous verrons ensuite. Mais c'est très curieux et très intéressant de regarder le sort de la métaphysique chez Aristote. Face à Platon. C'est sûrement un des problèmes historiques les plus intéressants. De voir comment quelqu'un qui a été pendant 20 ans disciple de Platon, Aristote, le jeune Aristote, je comprends que quand on a un maître comme Platon, on est séduit. Platon, c'est terriblement séduisant. C'est pour ça que d'une certaine manière, quand on est un peu fatigué de la recherche de la vérité, vous prenez un fauteuil et vous lisez un dialogue de Platon. C'est bon d'avoir comme ça un livre intelligent, très beau. Il y aurait quelque chose de très beau à faire avec Platon. Et de très grand, le père Festugère, dominicain que j'ai bien connu, qui avait une tête grecque. Le père Festugère. ce sujet, aimait follement Platon. Il y avait une peine énorme avec Aristote. Alors il était désolé quand on disait que Aristote, quand même, au point de vue de la vérité, allait plus loin. Il était désolé. Parce que pour lui, personne n'avait été au-delà de Platon. Et c'est vrai, quand on avait des cours du père Vestuvière sur Platon, c'était d'un séduisant. Aristote, très vite, a compris l'erreur de Platon. C'était de mettre les idées formes, ou les formes idées, avant l'être. Et ces formes d'idées étaient innées en nous. On essaie, métaphysicien, on essaie avec la philosophie première, mais on l'avait complètement oublié, parce qu'on avait eu de mauvais éducateurs, on avait eu des nourrices qui nous avaient oublié de comprendre était d'une intelligence divine. Alors, les éducateurs nous avaient orientés vers quelque chose de faux. Et Platon était là pour remettre la vérité. Platon, disciple de Socrate. Il est regardait en disant « Yola, mais face à la grandeur de la pensée de Platon, à la beauté de la pensée de Platon, face à la dialectique de Platon, Aristote élabore une philosophie réaliste qui cherche la vérité. Et il voit cette philosophie à son sommet, cherche l'être, ce qui est le Toine. Le Toine en tant que Toine. Savoir scientifiquement, par les causes, le Toine est homme. Pas seulement décrire, parce que d'une certaine manière, l'être en tant qu'être échappe à l'imaginaire. Avez-vous ? Quelle image avez-vous de l'être en tant qu'être ? Je voudrais bien le savoir. Où vous revenez à Platon, à Parménide ? Alors, c'est la sphère toute ronde, la vérité toute ronde. Le lieu de la méditation d'une scène, c'est l'œuf. Aristote découvre la vérité comme ce qui nous possède et non pas ce qu'on possède. La vérité, c'est être docile à la réalité existante. La réalité existante, elle est vie. Ce duel intellectuel entre Platon et Aristote, entre Aristote et Platon. Si Platon n'avait pas existé, que serait devenu Aristote ? C'est toujours merveilleux d'avoir quelqu'un comme Platon. C'est pour ça que ça nous réveille. Et c'est un peu trop le fauteuil de l'intelligence, oui. C'est agréable. Platon, c'est beau. Aristote, c'est rude. C'est très rude. C'est beaucoup plus beau que Platon, mais c'est très caché. Parce que c'est vrai. Mais il y a là, vous voyez, au point de vue de la pensée, et au point de vue de la naissance de la métaphysique, de la philosophie première, un duel merveilleux auquel il faut tout le temps venir. Parce que cela a existé. Et cela ayant existé, c'est bon pour nous de toucher cette lutte au sommet entre Platon, la pensée de Platon et Aristote. Pensée de Platon dans son contenu, c'est de découvrir l'âme humaine comme une âme spirituelle et divine. C'est là la grandeur de Platon. Il sait bien que les grandes traditions religieuses, ce que aujourd'hui des quantités de philosophes pensaient. Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, puis je crois qu'il s'est converti avec l'influence d'un Aristote. Je ne sais pas quel était celui qui a converti Merleau-Ponty, mais tu vois, il y a le second Merleau-Ponty. Et puis il est mort. Mais très nettement, il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui lui a fait revenir sur ce fait que l'âme n'existait pas. Parce que, point de vue de la conscience, je n'ai pas conscience de la distinction entre l'âme et le corps. Ma conscience est toujours liée aux deux. Ce qui est très juste. Mais il y a le fondement de la conscience. Il y a quelque chose qui peut aller plus loin. L'intelligence. Vous voyez, on touche là à tous les problèmes d'aujourd'hui. Mais on peut dire que d'une certaine manière, Hegel, pour nous, c'est un peu Platon face à Aristote. C'est pas tout à fait comme ça, mais analogiquement, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est si important de regarder la pensée hegelienne et de voir comment nous ne pouvons pas, si nous voulons chercher la vérité, être hegeliens. Oui, je crois que les études de philosophie que vous faites dans les 3 ans ici, c'est pour arriver à découvrir ça. Et c'est pour ça que je prends ce premier débat d'Aristote et de Platon, parce que, étant historique et loin de nous, les passions sont moins éveillées. Parce qu'on a toujours une séduction pour la modernité.
Love.
pour notre temps, en face de Hegel, en face de tous ceux qui ne cherchent plus la vérité et qui considèrent tout simplement la philosophie comme une grande synthèse de la pensée. C'est comme ça que un de mes frères dominicains, que j'aime beaucoup du reste, mais qui est un peu trop rhéteur, a une facilité énorme de parler, de dominer par la parole. Alors un jour je lui ai dit, il est beaucoup plus jeune que moi, puisque je l'ai connu quand il frappait à la porte des Dominicains. J'étais étudiant à ce moment-là. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est pour vous la philosophie et la métaphysique? Il s'est développé du côté de l'exégèse, surtout l'Ancien Testament, puisque c'est à l'égard de l'Ancien Testament que l'exégèse a le plus d'herbe à brouter. C'est pas l'expression des bonnes mots, mais je la trouve très jolie. Alors, vous prenez le point de vue du vieux paysan. Vous savez, quand on attache une bonne vache à un piquet où il y a beaucoup d'herbe, alors elle reprend tout extrêmement bien, d'une tondeuse remarquable. Au bout d'un certain temps, on voit le rond est parfait. Puis on voit les coups de lance. Qui veut dire de la lente, qui veut aller au-delà. Alors, c'était un sage, un autre dominicain, qui disait, oui, l'exégète n'a pas beaucoup d'herbe à brouter. Alors, il veut dépasser son domaine. Les coups de langue. Il voit très bien ce que c'est que ça. Et c'est assez juste. à l'existence de cet être premier. C'est le mot le plus simple. Jugement d'existence, ceci est. C'est ça qui est très impressionnant. Si vous n'arrivez pas à découvrir cela, quand Moïse demande, alors là, c'est en dehors de la philosophie, c'est sûr, mais le philosophe peut être croyant. Et il sait la différence entre la recherche philosophique et sa foi. Et s'il est intelligent, il n'a pas le droit de dire que la foi, ça n'a rien à voir avec la métaphysique. Il n'a pas le droit de dire ça. Il doit dire que la foi est autre chose que la métaphysique, autre chose que la philosophie première. Mais la foi est reçue dans une intelligence. Et la foi, lumière divine, reçue dans une intelligence, ne peut s'épanouir parfaitement que si cette intelligence cherche la vérité. Si cette intelligence ne cherche pas la vérité, j'aurai toujours la tentation d'opposer. Tandis que si je sais que mon intelligence cherche la vérité et veut aller le plus loin possible dans cette recherche de la vérité, tous ceux qui sont pour moi source de vérité, ça m'intéresse. Je suis l'ami de tous ceux qui m'aident à découvrir la vérité. Mais je ne confonds pas les sentiers ou les grands routes. Ou les routes express, je ne les confonds pas. Je sais qu'il y a la voie merveilleuse, royale de la foi. Et je sais qu'il y a le petit sentier, très humble, de la philosophie. L'avantage de la philosophie, c'est que je peux parler à tous les hommes, à tous les mendiants, de la vérité. Et ça, pour l'apôtre, c'est comme ça que je peux chercher les brebis égarées. Tandis que si je prends un langage de foi, qu'est-ce qu'ils diront ? Ah, encore une fois ! C'est Merleau-Ponty qui disait brutalement : je n'aime pas de parler aux catholiques, ils savent tout. Et on comprend ce qu'il veut dire. Les catholiques confondent si facilement le domaine de la foi, le domaine de l'intelligence. Si je ne distingue pas ce domaine de la foi et le domaine de l'intelligence, je n'arriverai plus à voir ce que la science moderne, biologique, physique, mathématique, peut me donner. Et je n'arriverai plus à distinguer la foi des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la psychologie. Je n'arriverai plus à distinguer. C'est quand j'arrive à distinguer la philosophie de la foi et que je vois qu'il n'y a pas de rivalité, bien que la foi soit plus ancienne, qu'elle est divine et qu'elle est supérieure à la philosophie. Au point de vue certitude, c'est bien évident. Et que la science moderne est très jeune. Elle a toute l'ardeur de la jeunesse. Mais elle a aussi les ruades de la jeunesse. C'est sûr, on voit bien. Vous êtes des vieux. Le Vatican, comme disait quelqu'un qui était un grand savant, le Vatican c'est un musée. Pourquoi ? Parce que la tradition est honorée. Alors on confond le musée et la tradition. Si on fait une philosophie et qu'on va jusqu'au bout, theologian. Capax Dei. Capable de regarder Dieu. Le philosophe peut dialoguer avec le théologien. Il doit dialoguer avec tous. Il peut dialoguer avec le matheux. Il doit dialoguer avec tous. Il doit dialoguer avec les savants qui recherchent l'origine de l'homme. Le philosophe doit dialoguer avec tous les hommes intelligents.